Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église. Le 5 septembre, nous commémorions les 110 ans de la mort de l'écrivain Charles Péguy, tué par une balle allemande au début de la Première Guerre mondiale. À cet auteur mystique, révolté par la misère et animé par une foi chrétienne profonde, le réalisateur Yves Bernanos a consacré un magnifique documentaire « Charles Péguy, l'artisan du Verbe », actuellement visible sur la chaîne YouTube de KTO TV. Yves Bernanos est l'invité de cette émission. Bonjour Yves Bernanos et merci d'avoir accepté mon invitation à parler de votre film sur Radio Présence.
Bonjour.
Je dois préciser que ce documentaire sur Charles Péguy fait suite à d'autres réalisations consacrées également à des auteurs et penseurs chrétiens, catholiques. Il y a eu René Girard, Les vérités mimétiques en 2021, Blaise Pascal de Cœur et d'Esprit l'an dernier, et puis entre les deux, heureusement l'espérance, l'héritage spirituel de Georges Bernanos, votre grand-père. Tous sont visibles encore sur la chaîne YouTube de KTO TV. Concernant Charles Péguy, est-ce que vous aviez ce projet de film depuis déjà quelques temps? J'ai le sentiment que c'est un auteur, comme les trois que je viens de citer, qui compte beaucoup pour vous.
Alors, j'ai eu ce projet de film très exactement il y a un an. Et à l'origine, Péguy est quelqu'un qui m'interrogeait beaucoup. Et Péguy est quelqu'un dont j'avais surtout entendu parler par Bernanos lui-même. Et j'avais été marqué, mais dès qu'on commence à lire Bernanos d'ailleurs, Bernanos cite Péguy. Dans sa première nouvelle fondatrice, pour ainsi dire, qui s'appelle Madame d'Argent, ça commence par une citation qui est parmi les plus connues de Péguy et qu'on trouve dans le film, et où Péguy parle d'un poète qui ne serait vivant que dans la stérile bibliothèque de l'école normale supérieure et qui serait un poète mort. Autrement dit, cette citation évoque la vérité et la vivacité du poète, mais dans le cœur du lecteur. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si Bernanos la cite dans cette première nouvelle. Il cite aussi Péguy dans Sous le soleil de Satan, à un moment crucial du roman, et il met en opposition les gens du peuple dans leur vérité avec la super critique parisienne dans ses mondanités superficielles. Et donc c'est pour Bernanos une manière de camper la vérité d'un personnage qui en l'occurrence est le prêtre de Nissan. Et donc en fait ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette manière de faire référence toujours à Péguy, c'est que pour Bernanos, Péguy est comme une boussole à laquelle il fait appel dans les moments les plus cruciaux de son existence, et notamment après la Première Guerre mondiale, où il découvre Péguy. Et ensuite, il n'aura de cesse que de faire référence à Péguy comme un compagnon fraternel au moment de la guerre d'Espagne. Il fait appel à Péguy pour mieux voir, mieux identifier l'horreur du franquisme. Et il fait aussi appel à Péguy et à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, il fait appel, pour ainsi dire, à ces deux figures en même temps pour animer la flamme de la résistance et de la France libre. Donc, je me suis toujours dit que Péguy était manifestement un homme exceptionnel pour avoir été un compagnon de si longue date pour Bernanos, c'est un compagnon fraternel. Alors, j'osais pas trop aborder Péguy parce que ça me semblait de prime abord complexe, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et je ne m'en sentais pas vraiment capable, à vrai dire. Et j'ai fini par sauter le pas parce que ce que je découvrais de Péguy à mesure que je me renseignais sur lui, à mesure que je lisais ses écrits, non seulement m'attirait beaucoup, mais je sentais une part de lumière et de vérité qui était très proche aussi de celle qu'on peut trouver dans l'œuvre de Bernanos. Et au-delà de cette parenté, parce que le lien entre Bernanos et Péguy est toujours extrêmement présent, pour moi en tout cas, Péguy m'apparaissait de plus en plus comme d'un homme profondément épris de vérité, et puis comme d'un homme dont la pensée est de plus en plus indispensable pour nous aujourd'hui, parce que c'est une très grande voix. Donc j'ai fini, comme je vous le disais, par sauter le pas et par décider d'en faire un film. Et quand j'ai proposé cette idée à la chaîne KTO, elle a accepté tout de suite. Et c'est ainsi que l'idée de ce film est née.
Oui, il me semble qu'il partage aussi avec Bernanos une forme d'intransigeance dans la pensée, mais aussi dans les relations qu'il pouvait avoir avec leur entourage et leurs contemporains. Le titre de votre film, Charles Péguy, l'artisan du verbe, intrigue bien sûr, mais je voudrais qu'on parle d'abord de la manière dont il s'ouvre. Vous avez choisi de commencer par la fin, si je puis dire, donc par la mort de Péguy, le 5 septembre 1914, sur le champ de bataille de Villeroy. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que de commencer par sa naissance et son enfance? Peut-être parce que les circonstances de sa mort et ses derniers instants, ses derniers mots, illustrent tout ce qu'a pu être sa vie et tout ce qu'ont pu être ses engagements.
Oui. C'est pour cette raison-là, alors je vais vous dire exactement la manière dont ça s'est passé. La mort de Péguy se situait initialement à la fin du film. Et il y avait quelque chose dans cette mort qui était tellement significatif de ce qu'il était, des choses qui étaient tellement révélatrices de sa nature profonde, qui traduisaient tellement bien la relation de vérité totale entre ses engagements et ses actes, que s'est imposé l'idée, effectivement, de placer cette mort, qui est chronologiquement évidemment à la fin de la narration, au début. Et il me semble qu'elle met en lumière ce qu'était profondément Péguy, qui était un être extrêmement courageux, et qui a toujours été fidèle à lui-même. Et dans cette fidélité à lui-même, à ses idéaux, à ses engagements, Péguy va jusqu'au bout, et il va mourir dans les premiers jours de la guerre de 14-18 sur le champ de bataille. Alors on a beaucoup parlé sur cette mort, on a beaucoup évoqué cette mort parce qu'elle intrigue, parce que cet homme qui reste debout alors que ses officiers, il y a un officier qui témoigne dans le film, oui. Et ses officiers se couchent et lui demandent de faire de même. Et Péguy continue, presque sabre au clair hein, d'ailleurs.
Oui, ça paraît suicidaire comme comportement.
Ça paraît exactement suicidaire et c'est... Cette idée s'impose à un certain nombre de gens. Or, il faut préciser que c'était la position réglementaire de l'officier à l'époque. Et les deux officiers supérieurs qui ont précédé Péguy et qui sont morts dans les mêmes conditions. Et il faut aussi préciser que les troupes allemandes étaient alors à Villeroy et qu'elles étaient très très proches de Paris. Il y avait une volonté de l'armée française de repousser par tous les moyens les Allemands. Il y a eu énormément d'ailleurs de morts du côté français, des dizaines de milliers de morts, mais il n'en reste pas moins que ça a stoppé la progression des armées allemandes, et donc Péguy non seulement n'est pas mort en vain, mais l'idée d'un suicide possible n'est à mon sens pas du tout la bonne quand on connaît Péguy.
D'autant plus que ces derniers mots, rapportés justement par les soldats qui étaient à côté de lui, seront « Mon Dieu, mes enfants ». Il pense tout de suite à ses enfants, les enfants qu'il va laisser, les orphelins qu'il va laisser derrière lui.
Oui, alors on pense à ça, bien entendu, de prime abord. On pense aussi à la relation qu'il pouvait avoir avec les soldats qui l'entouraient, parce qu'il était plus âgé qu'eux, il avait 41 ans. Ben, les autres soldats étaient beaucoup plus jeunes. Et je trouve qu'il y a, il y a énormément de tendresse chez Péguy.
Oui.
Et il me semble que cette tendresse se manifeste à ce moment-là.
Aussi pour ses soldats.
Oui, et la manière dont le Victor Bourdon, qui était donc l'un de ses soldats et qui témoigne dans le film, la manière dont il en parle, parce qu'il en parle avec énormément d'émotion.
Il a des sanglots dans la voix.
Tout à fait. Ça témoigne de la tendresse profonde de Péguy, qui est extrêmement présente dans son œuvre, mais comme dans sa vie. C'est vrai que ses derniers mots sont tout à fait bouleversants.
Alors on découvre ensuite ce qu'a été l'enfance de Péguy et ça nous permet de comprendre le titre de votre film. Dans quel milieu grandit-il ?
Il grandit dans un milieu très populaire, on peut même parler de pauvreté, en tout cas au sens où l'entendait Bernanos. La pauvreté n'étant pas la misère, mais il grandit dans un milieu qui est pauvre, un milieu d'artisans, d'ouvriers et d'artisans. Et on est au moment où a commencé la révolution industrielle, donc les pauvres à cette époque ont pas beaucoup d'autres alternatives que de travailler à l'usine ou de devenir des artisans. Il y a beaucoup d'artisans à l'époque, et notamment à Orléans. Et sa mère et sa grand-mère deviennent rempailleuses de chaises. Et donc toute son enfance, comme le dit Péguy, l'enfant Péguy voit sa mère et sa grand-mère rempailler des chaises. Et il les observe avec beaucoup d'attention. Et il voit ce soin absolu qu'elles apportent à leur ouvrage. Et ça va le marquer définitivement, au point qu'il va comparer le savoir-faire de ces femmes à celui qui prévaut dans la construction des cathédrales. Et cette analogie, cette relation qu'il fait entre les deux, montre que le travail bien fait pour Péguy a un caractère sacré, en réalité. Et c'est quelque chose qui va l'imprégner profondément dans sa vie et dans son œuvre. Les mots de Péguy, d'ailleurs, qui sont cités dans le film, montrent bien que chez Péguy, il y a une relation aux choses, aux êtres, à la beauté du geste, enfin, à tout ce qui peut faire l'artisanat. enfin un attachement profond qui est lié à l'enfance, bien entendu, mais qui est aussi qui relève d'une conception de la vie, en fait, chez Peggy. D'où le titre Peggy, l'artisan du verbe. Peggy, c'est quelqu'un qui nous propose de concevoir aussi la langue française comme une œuvre artisanale à part entière. Et ce qui est beau chez Peggy aussi, c'est que l'artisanat et le savoir-faire, c'est quelque chose qui peut être à la portée de chacun d'entre nous, puisque les pauvres peuvent s'initier et devenir de très grands artisans. Mais entre l'artisanat et l'art, la frontière est toujours mince et il y a des passerelles, bien entendu. Les grands artisans sont aussi de grands artistes qui n'osent pas d'ailleurs le
revendiquer
eux-mêmes. Et c'est ce qui fait toute la beauté d'ailleurs de leur savoir-faire. Et c'est ce qui fait aussi d'une certaine manière toute la beauté de l'œuvre de Peggy.
Oui, voilà. Donc il y a cet amour du détail et du travail bien fait, mais du travail bien fait pour lui-même.
Oui.
Avant même de penser à bien le faire pour ses clients ou pour plaire à son patron, on le fait bien pour lui-même. Et tout ce qu'on fait, on doit bien le faire. Alors elle grandit dans cette maison où l'on travaille et où l'on aime bien faire son travail. On n'est donc pas étonné qu'il devienne un élève studieux et très appliqué, brillant, au point qu'il est repéré par son instituteur, qui s'appelle Théodore Naudy. Voilà une figure très importante dans la vie de Peggy. En quoi ce personnage va-t-il être décisif pour l'élève Peggy, mais aussi pour la pensée politique de l'écrivain Peggy ?
Théodore Naudy, c'est, je dirais, enfin, il faut rappeler à ce sujet d'ailleurs que Désiré Peggy, qui était le père de Peggy, est mort alors que Peggy avait 4 ans, je crois.
Dix mois, pardon.
Oui, exactement. Donc Peggy n'a pas eu de père. Il était ouvrier menuisier d'ailleurs, Désiré Peggy. Et donc Théodore Naudy est un peu un deuxième père.
Un père de substitution, pourrait-on dire.
Bien sûr, pour Peggy. Et il va être particulièrement attentif à Peggy parce que Peggy, en fait, est un très bon élève. Peggy a compris très jeune que le travail bien fait permettait non pas seulement d'avancer dans la vie, parce que ce n'était pas son objectif, mais de développer ses compétences et de trouver son chemin. Et ça, Théodore Naudy le remarque chez l'enfant Peggy, et il va tout faire pour que Peggy puisse continuer à étudier correctement. Il va lui permettre d'obtenir une bourse. Donc il y aura une attention qui n'est pas seulement pédagogique, même si elle était fondamentale, mais aussi sociale. Et il va permettre aussi à Peggy d'évoluer de classe en classe, de continuer sa scolarité de la meilleure façon possible, jusqu'au lycée d'ailleurs. Et Peggy, un jour, lui dira qu'il lui doit tout, puisque c'est Théodore Naudy qui, dixit Peggy, l'a ouvert le premier aux humanités. Et donc, chez Théodore Naudy, il y a aussi l'incarnation de ce que la République peut apporter de mieux aux citoyens et à l'enfant citoyen, quelque part. Et donc, la conscience de la République aussi, de la valeur la plus fondamentale de la République, s'incarne pour Peggy dans la figure même de l'instituteur, et en l'occurrence de Théodore Naudy. Et donc, le socialisme de Peggy, la nécessité d'aider l'individu à s'accomplir, parce que finalement, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, à plusieurs reprises, la notion d'accomplissement de l'homme chez Peggy est quelque chose de fondamental. Et donc, y compris dans son socialisme. Et Théodore Naudy, en fait, je dirais que il y a plusieurs personnages qui vont influencer très positivement Peggy. Il y a Théodore Naudy d'abord, en premier lieu, mais il y a aussi Jaurès. Et Jean Jaurès qui deviendra son mentor, qui sera d'abord le professeur de Peggy et qui deviendra son mentor. Et entre les deux, il y a effectivement non seulement cette bienveillance, mais cette mission sociale aussi, du protecteur républicain aussi, qui est celui qui aide le citoyen, y compris le citoyen le plus pauvre, à trouver son chemin d'accomplissement. Et c'est quelque chose que notre société à nous a complètement oublié, ça. Ou en tout cas, enfin, je ne dis pas qu'il n'existe pas aujourd'hui des Théodore Naudy, d'ailleurs, homme ou femme, mais c'était très présent dans l'esprit de Peggy et dans sa vie même. Et c'est une chose à laquelle nos politiques seraient bien inspirés de penser aussi.
Ouais, c'est une figure qu'on retrouvera chez Albert Camus avec Monsieur Germain, là, cet
Absolument.
Instituteur auquel Camus disait lui aussi tout devoir. Donc oui. Peggy entre à l'école normale supérieure ensuite, et pendant ses années étudiantes, c'est là qu'il va développer sa pensée politique et se tourner définitivement vers le socialisme. À quoi ressemble le socialisme de Peggy ?
Il faut lire un texte qui est tout à fait révélateur de sa conception du socialisme, qui s'appelle « De la cité socialiste ». et qu'on peut trouver d'ailleurs, je crois, sur, assez facilement sur Internet. Alors, il est très jeune à l'époque de ce texte. Je crois que ça doit dater de la fin des années 90, mais du 19e siècle. Donc, on est autour de 1899.
Il a 25 ans à peu près, quoi, 25-26 ans.
Voilà. Et là, il explique, il détaille effectivement les éléments de ce qui deviendra plus tard pour lui la cité harmonieuse, c'est-à-dire que Peggy aspire à ce que les hommes vivent dans une cité qu'il définit lui-même comme étant la cité harmonieuse. Alors la cité harmonieuse, effectivement, elle implique que on y travaille, bien entendu, puisqu'il faut construire la cité, il faut construire une économie qui soit florissante. Mais en fait, Peggy dénonce d'emblée, très jeune, les méfaits de la concurrence. On pourrait dire d'ailleurs de la croissance ou d'hypercroissance aujourd'hui. Et pour Peggy, les ouvriers ne doivent pas travailler les uns contre les autres. Et c'est pour lui l'un des méfaits fondamentaux du capitalisme, c'est de créer effectivement une opposition, une scission, une division entre les hommes. Et pour lui, la notion de cité harmonieuse, c'est quelque chose qui est rassembleur et qui permet de travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre. Alors, il n'est pas marxiste au sens de la lutte des classes, mais il croit dans le combat social, ça c'est certain. Donc, c'est un vrai socialiste, pur et dur. Et ce socialisme naît aussi chez Peggy à la suite de répression sociale, notamment ce qui se passe dans la ville de Fourmi où des familles d'ouvriers réclament un 1er mai férié. Et ce moment festif est réprimé dans le sang. Il y a 9 morts, il y a 40 blessés. Et le socialisme de Peggy va se forger aussi dans le constat de l'injustice, qui est lié justement au capitalisme industriel. Et tous ces éléments vont faire que Peggy va s'engager dans le socialisme. Et d'ailleurs, il parle de conversion au socialisme. Quand on sait ce que représente le terme de conversion chez Peggy, ça dit bien ce que ça veut dire. Et s'il y a une chose qui m'a intéressé, notamment dans le film, c'est le parallèle qui existe entre l'engagement socialiste de Peggy et le domaine spirituel, selon Peggy. Il y a des liens permanents entre la nécessité pour lui d'accompagner l'homme, de permettre que l'homme s'accomplisse, collectivement et individuellement, parce que ça, c'est deux données essentielles chez Peggy. Il ne s'agit pas d'encourager les hommes à devenir des rapports de production et à faire en sorte qu'ils passent à côté de leur vie. C'est exactement le contraire chez Peggy. Il faut que chacun s'accomplisse, chacun effectue une tâche pour la société. Hein. Le travail, ça doit être ça aussi. C'est-à-dire qu'on œuvre pour la collectivité. Mais l'essentiel du travail pour Peggy, ça doit permettre à l'homme de s'accomplir dans sa vie quotidienne, pour les autres et pour lui-même.
Alors, nous allons parler de son rapport au christianisme et à la foi chrétienne à cette époque de sa vie, alors qu'il se tourne vers le socialisme, avant d'en venir à ça et avant d'en venir donc à sa foi catholique, aux figures, aux événements qui vont le mener à sa conversion, ce qui aura une influence très forte sur son œuvre. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre film, extrait qui me paraît fondamental pour comprendre l'homme Peggy et sa pensée.
Peggy se voit lui-même comme un drôle d'enfant, sérieux et grave, qui n'aime pas beaucoup jouer, car cela n'est guère amusant. Mais si l'enfant Peggy désire imiter les adultes, le Peggy adulte, lui, va s'appliquer plus tard à imiter l'enfance.
L'enfance de Peggy est une sorte de point fixe vers lequel il veut toujours revenir. Pourquoi est-ce que c'est un point fixe? Peggy écrit dans L'Argent, en 1913, que tout est joué avant que nous ayons 12 ans. Pour lui, c'est là que se creuse la personnalité de chacun. C'est dans ce moment d'innocence face à la dégradation, à ce vieillissement qu'est la vie, en quelque sorte, que tout se construit et ce vers quoi on revient sans cesse.
Pour le journaliste Mathieu Giroux, l'enfant est la figure qui semble se dégager des multiples aspects de Peggy. Écrivain, poète, militant, chrétien. Car c'est en enfant qu'il fut chacun d'entre eux. Ici se manifeste cette relation si profonde et si particulière entre son œuvre et sa vie. L'enfance et la jeunesse sont pour lui un état de commencement perpétuel, où la pensée et l'identité se forgent dans une quête de vérité, là où les adultes choisissent le clan des habitués.
Pour Peggy, il faut être fidèle à ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce que l'on a été dans son enfance. C'est pour ça qu'il a en tête toujours cette figure de Jeanne d'Arc, qui est cet enfant soldat en quelque sorte. Ce qu'a très bien montré d'ailleurs Dumont dans l'adaptation qu'il a fait de la Jeanne d'Arc de Peggy, où il fait jouer à tous les âges de la vie de Jeanne une jeune fille.
Cet enfant soldat, que qu'une seule effigie immortalise de son vivant de manière douce et naïve, va accompagner puis inspirer Peggy dans son jeune âge et durant toute sa vie. Sans doute était-il fait pour cheminer l'un vers l'autre. Est-ce un hasard si la rencontre s'est faite à Orléans, la ville d'enfance de l'écrivain, et celle où Jeanne Lapucelle, âgée de 17 ans, chassa l'occupant anglais lors de sa plus grande victoire, le 8 mai 1429. Ici, Jeanne est partout présente, même sous nos pas. Elle a sa maison, où Jeanne séjourna après la bataille d'Orléans. Le lieu fut détruit par les bombardements de 1940 et reconstruit depuis, à l'identique. Cette bâtisse historique a été un lieu d'inspiration pour Peggy, dans sa première œuvre, la pièce intitulée « Jeanne d'Arc ». Aujourd'hui, l'endroit est peuplé par les différents visages de Jeanne. Dans sa pièce, Peggy fait exister la sainte de 13 à 17 ans, dans son enfance, ses batailles et son procès. Son personnage est si incarné et si proche qu'il en devient véritablement vivant. Elle ressemble à une petite sœur, soucieuse du sort des hommes, sensible et déterminée face à l'injustice. Une héroïne d'autant plus bouleversante qu'elle apparaît bien réelle, loin de toute dimension mythique. La foi de Jeanne s'y exprime avec autant de ferveur que de puissance poétique, même dans l'angoisse surnaturelle que lui infligent ses juges, elle qui voudrait pourtant que chacun soit sauvé du désespoir et du châtiment.
Présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Un retour à l'antenne avec Yves Bernanos après cet extrait de son film Charles Peggy, l'artisan du verbe, l'enfance et Jeanne d'Arc, donc la fidélité à l'esprit d'enfance et l'admiration pour Jeanne, l'enfant soldat. Voilà quelque chose de fondamental dans la vie de Peggy, quelque chose de très bernanosien d'ailleurs.
Oui, absolument. Chez Bernanos, ce qu'on appelle l'esprit d'enfance est au cœur, d'ailleurs, de l'itinéraire de Bernanos lui-même et de son œuvre. C'est-à-dire que c'est pas simplement un âge particulier, un moment particulier de la vie de l'homme. C'est aussi ce qui se rapproche, toujours selon Bernanos, le plus de ce qui fait l'âme humaine, c'est-à-dire de ce qui nous constitue au plus profond, de ce qui nous permet aussi de percevoir l'absolu, puisque pour Bernanos, l'enfant, le regard de l'enfant est toujours orienté et naturellement vers l'absolu. La conscience aussi du temps de l'enfant est en lien avec l'éternité, quelque part aussi. Donc il y a dans l'enfance, selon Bernanos, une force inouïe. Et ce qui est très surprenant, et je dois dire que moi je l'ai constaté en travaillant sur ce film sur Peggy, ce sont les liens très étroits qui existent entre Bernanos et Peggy, même si chez Bernanos la conception de l'enfance lui est propre, certes, mais chez Peggy, il y a, avant Bernanos, un regard porté sur l'enfance qui est à la fois la meilleure part de l'homme, mais surtout qui est la part la plus authentique, la plus vraie de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, qui nous permet d'ailleurs d'avancer dans la vie sans être soumis aux compromissions de l'âge adulte. En fait, Peggy, c'est une chose qui m'est apparue assez évidente en faisant le film. Chez Peggy, l'enfance est toujours constitutive de sa pensée, en permanence, quels que soient ses écrits, en fait. C'est vrai que c'est toujours l'enfant Peggy, quelque part, qui tient la plume. Et c'est valable dès son premier écrit, Jeanne d'Arc, sa pièce de théâtre. Ce qui est absolument admirable et stupéfiant de génie, c'est que Jeanne, c'est cet enfant soldat, c'est celle qui est capable de mobiliser un pays tout entier pour repousser l'envahisseur. Et pourquoi elle en est capable? Précisément parce que c'est une enfant, parce qu'elle a cette part d'enfance qui subjugue et bouleverse ses frères d'armes. Et ça, c'est une chose que Peggy a su admirablement retranscrire dans sa pièce. Il faut rappeler qu'il a 24 ans quand il écrit cette pièce, donc c'est plus un enfant. Mais en même temps, dans la mesure où il écrit dans la maison de son enfance, ça c'est aussi révélateur. Pour lui, l'esprit d'enfance et Jeanne, c'est pareil. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que rien ne peut arrêter Jeanne d'Arc, selon Peggy. Et c'est ce qui fait aussi que Jeanne est très proche de nous quand on lit cette pièce. Il y a une proximité qui est absolument saisissante et toujours bouleversante. J'évoque le fait que on a l'impression d'avoir affaire à une petite sœur. Mais c'est la réalité. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il fait de Jeanne, qui est un personnage mythique pour beaucoup de gens, eh bien une jeune femme très proche de nous, dont on a l'impression, quelque part, qu'elle vient de notre propre famille. Et donc, c'est par cette œuvre que Peggy commence, et c'est une sorte aussi d'accomplissement de sa pensée.
Et Peggy va mourir sur un champ de bataille pour défendre sa terre face à l'envahisseur, comme oui. Jeanne. On en arrive à sa conversion. À quel moment, à la suite de quels événements intervient-elle définitivement?
Alors, on est en 1908. Peggy a créé les Cahiers de la Quinzaine, parce que Peggy, c'est aussi un grand éditeur. Et c'est quelqu'un qui va encourager les autres à écrire. Pour lui, c'est le fait de devenir éditeur. Ça participe aussi de son engagement et quelque part de son engagement socialiste, c'est-à-dire qu'il va permettre aux autres et à la pensée des autres de trouver une place dans sa revue et il y a de grands noms qui vont y écrire. Hein. Il va y avoir Bergson, il va y avoir
Romain Rolland
également. Et puis Peggy va aussi publier la plupart de ses œuvres dans les Cahiers de la Quinzaine. Et c'est l'une de ses œuvres, enfin c'est une œuvre à part entière, hein, comme le dit Eric Thiers dans le film Les Cahiers de la Quinzaine. C'est 14 années, mais c'est aussi une charge considérable pour Peggy. Et en 1908, les difficultés financières s'accumulent. Peggy est est épuisé hein, d'ailleurs par la gestion quotidienne des cahiers. Il s'éloigne d'un certain nombre de gens aussi parce que Peggy est un être authentique et il ne supporte pas les compromissions politiques ou les tentations d'opportunisme des uns et des autres. Et,
il s'éloigne de Jaurès d'ailleurs.
Il s'éloigne de Jaurès.
À cause de ça.
À cause de ça, particulièrement à cause de ça. Et tout ça, cette désillusion aussi est cause de fatigue, bien entendu. Et il arrive à un moment donné de son existence où il est à la fois dans un certain état de fatigue et de fragilité, mais en même temps, il va avoir une disposition d'esprit, une ouverture quelque part à l'absolu parce que c'est toujours un homme en quête d'authenticité, en quête de vérité. Et il y a un dernier événement qui va aussi l'amener à une intériorité de plus en plus grande, c'est qu'il va tomber amoureux d'une jeune femme qui a été stagiaire au cahier, qui donnait des coups de main de temps à autre, qui s'appelle Blanche Raphaël. Il restera pour autant toujours fidèle à sa femme, mais cet amour va l'amener aussi à être obligé de se dépasser. Et donc c'est un être d'une immense intériorité, Peggy. D'ailleurs, il finira par dire à cette jeune femme, dont il deviendra un ami, « Vous avez fait de moi un poète ». Et en 1908, il y a un événement qui est déclencheur de ce qu'on peut appeler quand même une conversion, puisqu'il y a des débats autour de... Certains disent qu'il revient à la foi de son enfance.
Oui, parce qu'il est baptisé. Est-ce qu'on peut se convertir à une religion qu'on a déjà?
En fait, il faut aussi considérer que quand Peggy est un jeune militant socialiste, il se déclare en tout cas lui-même athée de tous les dieux. Donc c'est une manière de se positionner par rapport au catholicisme. Et en même temps, ce qui peut sembler paradoxal, mais qui ne l'est pas, c'est qu'il va écrire sa Jeanne d'Arc à 24 ans, et la spiritualité sera quelque chose de très présent dans cette première œuvre. Et donc, en 1908, il y a un événement fondateur de cette conversion qui est la lecture ou la redécouverte de l'Évangile selon saint Matthieu. Et cette lecture va le bouleverser au plus profond de lui-même et sera le déclencheur, en tout cas, d'une foi extrêmement profonde, extrêmement vivante, extrêmement créatrice aussi, puisque à partir de cette époque, il va écrire ses plus grandes œuvres, poétiques notamment, mais aussi ses essais. Donc la conversion de Peggy, elle s'inscrit dans le cadre d'une unité profonde, c'est-à-dire que pour le chrétien Peggy, eh bien, le salut, c'est la quête essentielle. Peggy voudrait sauver tous les hommes, tant que chrétien.
Il y a chez lui le refus total de la damnation.
Absolument.
Et c'est ce qui le dérangeait au départ, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, c'est ce qui le dérangeait au départ, c'est ce qui a fait qu'il s'est éloigné de la foi chrétienne. Et encore une fois, cette damnation, elle est présente dans les deux Jeanne d'Arc qu'il a écrit, hein, dans la pièce Jeanne d'Arc et dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Pour Peggy, Dieu est l'amour même. Et en conséquence, il ne peut y avoir d'exclusion, il ne peut y avoir d'étranger à l'amour de Dieu. c'est quelque chose qui est antinomique. Donc la damnation pour Peggy, c'est, il n'aura de cesse que de mettre en lumière le fait que, à ses yeux, dans l'amour de Dieu, il ne peut y avoir d'exclusion. Et c'est quelque chose qui rejoint d'ailleurs sa conception socialiste. Il le dit à la fin de sa vie.
Mais dans la Cité harmonieuse, il n'y a pas d'exclu non plus, il n'y a pas d'étranger.
Il n'y a pas d'étranger absolument. Et à la fin de sa vie, il dira que, dans notre jeunesse, il dit que son socialisme est une religion du salut temporel. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours un lien profond. À la fois, l'œuvre de Peggy, elle est très diverse, mais en réalité, il y a une unité qui est tellement profonde, tellement vivante, tellement cohérente, qu'on n'a pas de mal à la découvrir au-delà de cette diversité et de ce foisonnement, puisqu'il y a quand même 4 volumes qui ont été édités à la Pléiade. Ce qui est fascinant, c'est que tout se rejoint en profondeur. Il y a une métaphore qu'utilise le comédien et metteur en scène Samir Siad, qui est celle de l'océan. Et c'est vrai que...
Oui, le ressac, les vagues qui se succèdent.
Exactement. Pour le style, effectivement, pour la forme même de Peggy.
Et on voit de très belles images de l'océan, d'ailleurs, à ce moment-là.
Mais dans un océan, tout correspond. On a les abysses, mais on a aussi une correspondance de tous les organismes et de tout ce qui compose l'océan. Eh bien, l'œuvre de Peggy, c'est ça aussi.
À la fin, donc, après sa conversion, il y a cette trilogie de ce qu'on va appeler les mystères. Hein, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc en 1910, il y a le mystère des saints innocents en 1912, et puis en 1911, il y a le porche du mystère de la deuxième vertu. Et la deuxième vertu, c'est la vertu théologale, c'est l'espérance. L'espérance, c'est vraiment la vertu chrétienne par excellence pour Peggy, et c'est ce qui irrigue toute son œuvre les dernières années.
Oui, absolument. Pour Peggy, l'espérance, c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui tire, c'est ce qui entraîne tout le reste. En fait, Peggy, dans son texte, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, prend l'image d'une petite fille, mais cette petite fille tient par la main les deux autres vertus, qui sont la foi et la charité, et qui ne cesse de surprendre Dieu lui-même. Et en fait, l'espérance, c'est l'éternel commencement pour Peggy. C'est ce qui est profondément inaltérable, en fait, comme l'enfance. Pour Peggy, la création, comme la vie, c'est un éternel commencement. C'est un état de fraîcheur perpétuelle. Et c'est ce qu'il a mis en lumière et en acte dans sa création même. Mais il prend une image, c'est valable pour sa notion de l'espérance comme pour l'art. Hein. Il prend l'image des nymphéas de Claude Monet. Il y a plus d'une centaine de nymphéas. Et pour Peggy, le plus beau de tous, c'est forcément le premier. Donc il y a dans ce qui commence, chez Peggy, l'essentiel. Mais c'est aussi valable pour sa conception de l'espérance.
Je voudrais dire un mot avant de terminer cette émission sur la beauté formelle de vos documentaires, sur la manière dont ils sont construits, avec ici des interviews de spécialistes de l'œuvre de Peggy. On entend Claire Naudin, Alexandre de Vitry, Eric Kier, que vous avez cité, Olivier Peggy, arrière-petit-fils de l'écrivain. Il y a des photos, des documents d'époque, il y a des peintures, il y a des dessins. On voit les décors où a vécu l'auteur, des maisons, des rues d'Orléans. Et puis, il y a aussi des images de paysages, de champs, de forêts souvent battus par le vent. Je parlais de l'océan, on voit aussi une rivière, ce flux de l'eau. Je sens chez vous les influences de cinéastes comme Robert Bresson ou Andrei Tarkovsky. En parlant de souci du détail et de l'amour du travail bien fait, j'ai l'impression que vous êtes dans la droite ligne d'un Peggy.
Ben, merci beaucoup. Écoutez, il est certain qu'en lisant la prose de Peggy et surtout ce qu'il dit du travail artisanal, j'ai retrouvé évidemment ce en quoi je crois profondément. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Peggy, parce que cette notion d'artisanat, et en particulier dans le documentaire, parce que je pense que le documentaire est un art artisanal à part entière. Cette notion de l'artisanat, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez les plus grands. Vous venez de citer Robert Bresson ou Tarkovsky. Ce sont deux immenses artistes et sans doute parmi les plus grands cinéastes du XXe siècle. Mais ce sont aussi des artisans au sens où Peggy l'entendait. Et quand on connaît aussi la technique de travail de Bresson, qui recommençait aussi longtemps que possible ses prises jusqu'à arriver à la quintessence de sa recherche, il y a une notion artisanale qui s'inscrit dans le droit fil de la description de Peggy.
Peut-être un mot pour finir sur la descendance politique de Charles Peggy. avec un autre Charles. L'an dernier, je suis allé visiter la maison du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises, propriété qui est perdue un peu au milieu des champs, des forêts, dans un tout petit village. Et j'ai beaucoup regardé les rayons de la bibliothèque où l'on trouvait, en bonne place, ça surprendra personne, les œuvres de Maurice Barrès et Chateaubriand, mais aussi celles de votre grand-père, Georges Bernanos, et celles de Charles Péguy, deux auteurs dont de Gaulle se sentait très proche. Il m'est revenu une phrase fameuse attribuée au général et qu'il aurait dite à Malraux, « Je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes, je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes, et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. » Dites-moi, c'est du Péguy, ça?
Alors, bah, écoutez, c'est du pur Péguy, absolument. C'est une citation qui nous revient souvent en mémoire, parce que ce sont des mots simples, mais d'une telle justesse, qu'ils prennent une actualité de plus en plus saisissante à mesure que notre histoire contemporaine évolue. Et ça, c'est aussi, quelque part... tout à fait caractéristique de ce qu'était Péguy, vous avez absolument raison.
Justement, je me disais, en parlant de descendance politique, bon, j'ai parlé du général de Gaulle, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se revendiquent du général, mais la pensée de Péguy, pour ceux qui aujourd'hui se questionnent sur le devenir de notre pays, sur la façon dont on pourrait peut-être l'administrer d'une façon différente, est-ce que l'œuvre du Péguy, justement, n'est pas une œuvre porteuse d'espérance à laquelle il faut s'abreuver?
J'en suis absolument convaincu, parce que je crois que le socialisme de Péguy a beaucoup à nous apporter aujourd'hui. La pensée de Péguy, bien entendu, mais prenons juste le socialisme en lui-même. Ce qui est fondamental pour Péguy, c'est que le politique doit permettre à l'homme de s'accomplir. La notion d'accomplissement chez Péguy, elle est vraiment au cœur de sa conception politique. Alors il est certain qu'il y a une part à consacrer à la collectivité. Ça fait partie aussi de l'accomplissement de l'individu. Mais la manière dont il conçoit les relations entre ouvriers, le fait que la concurrence ne doit pas être la finalité de toute production, mais que cette finalité, c'est l'harmonie entre les hommes. Parce qu'au final, l'économie doit servir l'homme pour Péguy. Le bien-être de l'homme, mais aussi l'accomplissement de l'homme. C'est quelque chose dont on s'est profondément éloigné, puisque les fruits du capitalisme industriel, on les connaît aujourd'hui. Mais c'est quelque chose dont il faut absolument que nous nous rapprochions dès aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, d'une société qui reste encore à construire. Péguy peut nous aider profondément à trouver cette voie en tant que socialiste, mais également en tant que poète. Parce que les deux se rejoignent et les deux ont beaucoup à apporter à l'humanité tout entière.
Eh bien, nous allons terminer là-dessus parce qu'il est temps de conclure cette émission. Merci infiniment d'en avoir été l'invité, Yves Bernanos. Je rappelle que votre documentaire, Charles Péguy, l'artisan du verbe, est toujours visible gratuitement sur la chaîne YouTube de KTO TV. C'est passionnant, c'est superbement réalisé. Je le conseille vraiment à tous ceux qui veulent découvrir la vie et l'œuvre de Charles Péguy. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.